Shalom. Il y a environ deux semaines, j'ai fait un cours sur la question qui, dont on parle beaucoup, l'engagement des Bachurei Yeshivot, des étudiants de Yeshivot à l'armée, et comme quoi, d'après la Torah, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas faire, pour la protection d'Israël. Et il y a un rabbin que je ne connaissais pas, qui s'appelle Rav Ethan Fisson, qui a donné une réponse d'un quart d'heure environ en vidéo, et je veux lui répondre. Je vais lui répondre parce qu'il a été extrêmement respectueux, très juste, très bien, et il mérite que je lui réponde. Il faut comprendre que cette question, elle réveille les passions. Hier, j'étais à un mariage, j'ai rencontré là-bas le Mashbak, l'intendant du Rav David Abouhatsera, Shalita, qui a dit qu'on est très très proche du Mashiach. Il a dit que la chose essentielle, c'est l'amour entre nous, dans le peuple d'Israël. Et dans le monde religieux, il y a deux camps. Le monde d'Atiléoumi, sioniste religieux, et qu'on appelle orthodoxe. Et il y a un grand piège, qui est, vu qu'on n'est pas d'accord sur des points essentiels, comme par exemple l'engagement des Bachurei Yeshivot à l'armée, ça peut réveiller les passions, et la haine à Dieu ne plaise. La haine, c'est terrible. Et le Rav Fisson a parlé, il était vraiment, je le félicite, il a dit, je veux pas, ce n'est pas du tout un débat justement, politique, mais c'est une question de Torah. On peut, quand on discute, quelqu'un on dit la Gemara, on peut ne pas être d'accord et discuter, ce n'est pas pour ça qu'on se hait. La Gemara dit, et vahev besoufa, c'est qu'on fait la guerre et après on s'aime, d'accord? Quand on a fini d'étudier, on s'aime quand même, ce n'est pas parce que je n'étais pas d'accord avec toi. Donc, je réponds, et c'est vraiment un débat de Torah à Torah. J'aimerais souligner l'importance de cela. C'est écrit dans le traité Yebavot, page 14, que il y avait un désaccord entre Beit Shammai et Beit Hillel sur la Tsarat Yebama qui est une erva. Je pense que dans le détail, c'est un peu compliqué. Mais Beit Shammai et Beit Hillel n'étaient pas d'accord sur certains cas de relations qui pouvaient mettre au monde des mamzerim, des enfants bâtards. Enfin, un mamzer, on ne peut pas se marier avec lui, c'est interdit. Ils n'étaient pas d'accord. Un disait c'est un enfant cachère, l'autre disait c'est un mamzer. La Gemara, néanmoins, ils se mariaient ensemble. Comment? Alors ils vérifiaient si c'était des mamzerim ou pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'ils ne s'aimaient pas. Et la Gemara cite un verset du prophète, Ha'emet ve'ashalom et havu. La vérité et la paix, aimez. Le Maharal de Prague l'explique, quand on cherche la vérité, ça peut amener le non-shalom. J'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, boum boum, et on s'énerve et on commence à se haïr. Comme ça peut être le cas, Dieu ne plaise dans le peuple d'Israël sur ces questions-là. Alors le verset dit bien, à émettre, il faut chercher la vérité, va à Shalom, et à vous, aimez. Donc je félicite le Rav Fisson et je lui réponds dans le même cadre de réponse de Torah à Torah, avec beaucoup d'amour, Bezrat Hashem, tout son machia revient, c'est fini, on n'aura même pas le temps de mettre les Bachurei Yeshivot à l'armée. Mais bon, on peut toujours faire un débat toraïque. Alors le point, il est comme ça. Moi j'avais cité un passage de la Torah, c'est dans Devarim, chapitre 17, versets 8 à 11, qui dit que lorsqu'on a une question, on irait voir les juges de la génération, donc les grands de Torah, les juges de la génération, et on ne bougera pas de ce qu'ils nous diront, ni à gauche, ni à droite. De là, qu'on a l'obligation d'écouter les grands de Torah de chaque génération. C'est marqué « Bachar Eliyou Bayamim Ahem » qui aura à cette époque-là. Et on ne bougera pas de ce qu'ils nous diront, ni à gauche, ni à droite. Ça veut dire que même s'ils se trompent, il faut les écouter. Nous, on croit qu'ils se trompent. Non, on ne se trompe pas, d'accord? On doit les écouter. Et vu que les grandes générations disent qu'il faut aller à l'armée, donc on va à l'armée. Le Rav Fisson pose à peu près 8 questions, enfin 8 objections que je vais citer ici. Après, on va prendre des points. C'est un débat toraïque. Hein, Alors, premier, il dit que cette loi-là ne concerne que lorsqu'on a un doute à propos de la halakha. Alors, on va voir les grandes générations. Mais ici, il dit que le fait qu'actuellement, on est en Mechaimet Mitzvah, on est en guerre de Mitzvah, et l'Acha déjà a été statué, que dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion, tout le monde sera à la guerre. Il n'y a pas, t'étudies pas, même le Khatan, il vient de se marier, voilà, sa nuit de mariage, il sort, il va au combat. Premier point. Deuxième point, cette Halakha ne concerne pas les grands des générations actuelles. On parle de l'époque du Sanhedrin. Quand tu auras une question, tu iras voir le Sanhedrin. Bon, ça fait 2000 ans, presque 2000 ans qu'il appelle Sanhedrin, donc c'est une halakha qui n'est pas actuelle. Ce n'est pas les grandes Torahs actuelles qu'il faut aller voir. Troisièmement, le Sanhedrin peut se tromper. C'est vrai. Il y a des lois concernant qu'est-ce qui se passe si le Sanhédrin s'est trompé. Donc, il ne faut pas l'écouter. Donc, les grands aussi peuvent se tromper. Enfin, c'est les points 3 et 4. Donc, les grands aussi peuvent se tromper. Et il ne faut pas les écouter. 5. Qui sont les grands ? Demande le Rav. Est-ce qu'on a un rabbinomètre ? Comme ça, est le mot qu'il a utilisé. D'accord, pour savoir la grandeur d'un rabbin. Donc, on peut se tromper. On peut, avec chacun, mon rabbin, c'est le grand. Mon rabbin, c'est le grand. Mon rabbin, c'est le grand. Mon copain, c'est le grand, d'accord. On ne peut pas savoir qui est grand, qui est petit, qui, il est où ce rabbinomètre. Comment on fait pour compter cela, pour quantifier cela. Sixième point. Même si on admet que l'étude de la Torah, et il admet, Baruch HaShem, le Rav Fizon, que l'étude de la Torah, c'est notre garantie d'éternité, de victoire contre nos ennemis, alors mais on peut aussi étudier à un autre âge que celui de l'armée, avant et après. D'accord ? Il y a beaucoup de gens à 30 ans, 40, 50 qui ont lu la Torah. Et grâce à cette Torah, on va être sauvé. Septième point. J'aurais dit que... J'aurais dit pas du monde d'Atiloumi, donc le monde religieux nationaliste, et orthodoxe. J'ai dit, mais nous aussi, on est orthodoxe. D'accord ? Là, je réponds tout de suite. Oui, je suis d'accord. Quand je dis orthodoxe, je parle de l'appellation orthodoxe, journalistique, d'accord ? On dit, il y a le monde national religieux et le monde orthodoxe, charedi. Alors, charedi signifie qu'il y a la crainte de Dieu, mais c'est certain que le monde orthodoxe, le monde, lapsus, le monde national religieux est orthodoxe aussi. C'est clair que parmi eux, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont une très grande Yirat Shamayim, sur certains points, des fois, beaucoup plus que dans le monde orthodoxe. Donc, quand je dis orthodoxe, je ne parle pas de quelqu'un qui a la crainte de Dieu, je parle de l'appellation journalistique. Donc, le septième point, on aura réglé. Huit. J'ai dit dans mon cours que même si on parle de qu'il y a une milchamet, qu'on est actuellement en guerre de mitzvah, et que dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion, tout le monde a la racette, lui, qu'il faut sortir à la guerre, j'ai dit oui, mais actuellement, où il n'y a qu'un très faible pourcent de gens religieux, et encore un pourcent encore plus petit de gens qui étudient la Torah toute la journée, que c'est leur profession, on va dire, ce serait absurde de dire à ces gens-là de sortir et faire la guerre, ça mènerait notre perte. Voilà les points soulevés par le Rav Fizon. Maintenant, je vais répondre. Alors, la halakha, elle est fixée comment? Alors, il y a la Torah, après il y a la Mishnah, après il y a la Gemara, et après il y a le Rishonim et l'Achronim. Les Rishonim, ce sont les grands rabbins du Moyen-Âge, qui avaient environ entre l'an 1000 et l'an 1500. Ce sont les piliers de la halakha, sur eux est basée la halakha. Alors, le Rav, je vais commencer par le point 2, 3 et 4, qu'il a dit que cette halakha concerne que le Sanhedrin, c'est pas actuel. 2, le Sanhedrin peut se tromper, et dans ce cas-là, on ne peut pas l'écouter. Il a rajouté avec beaucoup de sagesse que, bon, il faut manger beaucoup de soupe pour pouvoir dire que le Sanhedrin se trompe. Ouais. Mais avec les grands de Torah, ils peuvent se tromper, et si un grand de Torah se trompe, il faut pas l'écouter. Alors, je cite maintenant des Rishonim. Les Rishonim, donc, ce sont les piliers de l'halakha. On a le Chinour, qui a écrit un grand livre avec tout le compte des 613 mitzvot qu'il explique là-bas, concernant la mitzvah dont nous parlons, celle d'écouter les juges, et de ne pas bouger ni à gauche ni à droite de ce qu'ils nous diront. C'est donc la halakha 496 dans le Chinour, traduction française des passages concernant cette halakha. Et à toute génération, nous devons écouter les sages. Point de suspension, une phrase un peu plus loin. Et même s'ils se trompent sur une ou plusieurs choses, nous n'avons pas le droit de nous opposer à eux et nous ferons comme leur erreur. En parenthèse, il faut encore prouver que c'est une erreur, parce que si tous les grands sages de la génération, en tout cas une grande partie, on va dire, on parle ici de deux camps, le nationalisme religieux et orthodoxe. Si tous du monde orthodoxe disent la même chose, ce sont des grands, on va expliquer ça tout de suite, le rabbinomètre, d'accord, comment il fonctionne, aller dire le contraire qu'eux, il faut être super calé. Mais bon, admettons qu'il se trompe. Eh bien, le Chinour nous dit, au Moyen-Âge, il est préférable de souffrir une erreur que tous soient toujours subordonnés, et que tous soient toujours subordonnés à leur avis, plutôt que chacun fasse comme il pense, car cela amènerait à la destruction de la religion et le partage du cœur, du peuple et la perte totale de toute la nation. Il aura conclu vers la fin de cette halakha. Cette mitzvah exprime notre obligation d'obéir aux paroles des sages antérieurs et aux grands de la sagesse de la Torah de notre génération. Écoutez les grands de Chochmat HaTorah, de la sagesse de la Torah de notre génération. Donc le Rav, quand il écrit ça, il ne parle pas que de sa génération à lui, il écrit pour les générations à venir, c'est un livre, d'accord? Chaque génération, il y a l'obligation d'écouter les grands de la Torah. Donc ça ne concerne pas que le Sanhédrin. Deux, même si le Sanhédrin se trompe, et même les grands de la Torah, encore faut-il le prouver. En attendant, si que, on va pouvoir prouver que c'est faux, et beaucoup de grands de Torah se joignent à nous pour montrer, alors que tu peux choisir tes grands de Torah. Mais si maintenant, dans le monde orthodoxe du moins, la totalité des grands de Torah disent quelque chose, qui est celui qui pourra dire qu'ils se trompent? Et même si on admet qu'ils se trompent, le Rav nous dit qu'il faut les écouter. C'est pas le seul. Le Ran, aussi un des Rishonim du Moyen-Âge, dans Drashot HaRan, Drush 12, par le paragraphe commençant par les mots « Vehatshuva ». Traduction. De même qu'il a donné au Sanhedrin la capacité de représenter les grands de la Torah et ses enseignants, il doit en être de même en ce qui concerne les grands sages d'Israël. Donc on doit écouter les grands sages d'Israël de chaque génération. Maintenant, à part cela, c'est logique. Parce que la Torah, il y a des questions qui n'ont pas été statuées. Alors, qui on va demander? Si on n'écoute pas les grands de Torah, qui on va écouter? Mon copain? Mon concierge? Le primeur? Le boulanger? C'est pas logique. C'est comme dans n'importe quelle branche. En médecine, on a ici en Israël un rabbin qui s'appelle le Rav Führer. C'est pas un médecin. Il n'a jamais fait d'études de médecine, mais il s'y connaît très bien. Pour chaque point spécial, le plus pointu qu'il puisse y avoir, il te dira qui est le grand spécialiste au monde qu'il faut aller voir. Il n'a pas été avec le rabbinomètre, d'accord, comme on dit, il n'a pas été faire un examen à chacun des médecins dans chaque branche pour voir s'il est grand ou il est petit. Il ne connaît pas toute la médecine. On parle maintenant de définir maintenant qui est le plus grand dans chaque point. Tu as un problème à l'oreille, dans ce point exactement, qui tu vas voir? Tu te dis, va voir en Amérique, en Australie, etc. Comment il fait? Ben, comme dans n'importe quelle branche. J'ai un problème en droit. Attends, tu as un avocat qui est petit, moyen, grand, très très grand. Ça a beaucoup, beaucoup plus d'argent, d'accord? Comment on sait c'est quoi un avocat qui est très très grand? Moi, je ne me connais pas du tout en droit. Je n'ai pas fait d'études de droit, je ne connais rien. Ben, je vais aller voir des grands avocats. Qui vont me dire qui sont les plus grands avocats qu'il y a sur le marché. J'en prends 10, ils me disent qui est le plus grand parmi vous. Et ils reconnaîtront, pour ce point-là, c'est lui, pour ce point-là, c'est lui. Comme ça, il fait fureur aussi au niveau de la médecine. Il va prendre des grands médecins, dites-moi pour ce point-là, qui est le meilleur ou les meilleurs qu'il y a, ils te diront. Idem, ça c'est pour le rabbinomètre, d'accord, comment ça fonctionne, comment si c'est quoi un grand. On va prendre les plus grands talmidei chachamim de la génération, on va prendre, disons, 100, et dites-moi parmi vous, qui sont les 4 ou 5 les plus grands, ou le plus grand. Et tous sont d'accord, et tous sont d'accord. Je parle dans le monde orthodoxe. Dans le monde national, il faut que j'explique encore un peu, c'est quoi un grand de Torah? Un grand de Torah, c'est pas la longueur de sa barbe, évidemment, c'est pas le nombre de livres qu'il a écrit, c'est pas le nombre de gens de sa communauté, c'est un grand en Torah. Et que ça, on regarde pas autre chose que cela. Quelle est sa quantité de connaissances en Torah? Maintenant, dire, par exemple, qu'il connaît toute la Gemara, ces 2700 pages en araméen, touffu et dur, par cœur. Ben, c'est une insulte. Dire ça sur un grand Torah, c'est une insulte. Parce qu'il connaît des... C'est dur pour moi de dire un chiffre. 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus. C'est les commentateurs sur le Talmud, Talmud de Jérusalem et de Babylone, les poskim, les grands, la Kabbalah, le Midrash, c'est phénoménal. Ces gens comme Rav Chaim Kanievski, le Rav Adi Yosef, d'accord, c'est inhumain, inhumain. Le Rav Eliashiv, le Rav Ben Shonabach Shaoul, Zatzal, c'est des grands, énormes. En ce qui concerne le monde nationaliste religieux, personnellement, je ne connais pas ce monde-ci. Moi, je viens du monde orthodoxe, je ne connais pas. Est-ce qu'il y a des grands de Torah là-bas? Je ne peux pas répondre, je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Admettons qu'il y en a, ok? Aussi grand que dans le monde orthodoxe, ok? Mais ça ne veut pas dire maintenant que le monde orthodoxe, il a tort. Le monde orthodoxe a des grands de Torah. C'est clair qu'ils sont énormes. Et tous sont d'accord. Depuis 70 ans, le Rav, dans sa première question, dit que c'est valable pour les halakhot qui n'ont pas été statués. Mais ça, c'est été statué quand on a mis Hamat Mitzvah qu'il faut sortir. Ben, lui-même, le Rav, il me pose en dernière question, lorsque j'ai dit que vu qu'on est un pourcentage très très faible d'étudiants, c'est pas du tout clair qu'il faut sortir faire la guerre, parce que peut-être qu'on a besoin maintenant. De plus, il a posé en question 6 que... Pourquoi est-ce que les gens, à l'âge de l'armée, ils n'iraient pas à l'armée, puis après, avant et après, ils vont tuer la Torah? C'est une question. C'est comme si je dis maintenant, tu sais quoi, on va faire autrement. va prendre tous les Israéliens, entre 18 et 21 ans, tout le monde va aller à l'Yeshiva. Puis quand ils auront 30-40 ans, mariés un peu gros, on va les envoyer à l'armée. D'accord? Tu me dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas dans le monde de la Torah non plus. La puissance, le fer de lance d'études de Torah, ça va de 16 ans à 26 ans. C'est là où on grandit en Torah. Et il y a un monde, je vous dis, moi j'ai des petits-enfants, d'accord, mais j'ai honte par rapport à eux. J'ai honte. Ils ont 16 ans, 17 ans, mais ils étaient dus jour et nuit et jour et nuit. J'ai honte, j'ai honte. J'en ai un ce Shabbat chez moi. J'en ai un qui est à Haïfa, d'accord, il m'a dit, j'ai rien le temps de faire. Je mange, je dors, je vais aux toilettes et j'étudie. Et je prie, d'accord, étudie sans cesse. Et un autre qui était chez moi ce Shabbat, Shabbat libre de la Yeshiva. Il devait rentrer à Yeshiva à quelle heure? 19h. Samedi soir, 19h pour aller étudier. Mais c'est des malades d'études. On va sortir ces gens-là pour aller à l'armée. Alors si les grands de la Torah statuent que oui, oui, tous les grands de la Torah du monde orthodoxe ont dit non. C'est le fer de lance du peuple juif. Et d'autant plus qu'on a un pourcentage très très faible de gens religieux. Il y a extrêmement d'assimilation, beaucoup de débauche dans le peuple. Hélas, d'accord. Alors, il y a une minorité de religieux, dans la minorité religieuse, t'as une minorité toute petite de gens qui s'adonnent à la Torah, mais il faut laisser ces gens-là, c'est les commandos du peuple juif, c'est ce que pensent les grands de la Torah du monde orthodoxe. Ont-ils raison? En tout cas, c'est les grands de la Torah, la Torah nous ordonne d'écouter les grands de la Torah. On peut dire, il y a peut-être des grands de la Torah dans le monde, les nationalistes religieux, qui sont aussi grands qu'eux, d'accord, et qui disent le contraire. Ok, admettons, ok, mais c'est pas pire que Beit Shammai et Beit Hillel. On n'est pas d'accord pour des questions graves de Mamzerut, de Mamzerim. Mais ce n'est pas une raison pour se haïr, ce n'est pas une raison pour dire maintenant qu'il faut faire autre. Chacun fera comme il pensait, et comme ça c'est écrit dans la Gemara, les membres de la communauté de Beit Shammai faisaient comme Shammai, les membres de la communauté de Beit Hillel faisaient comme Hillel, et ils s'aimaient et se mariaient ensemble quand même. Donc on n'a pas à se haïr. C'est clair que le monde orthodoxe a raison. Et si les grands de la Torah que je ne connais pas du monde, quand je dis que je ne connais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je dis que je ne connais pas, d'accord? Je suis sincère dans ce que je dis. Si les grands du monde nationaliste religieux disent qu'il faut aller à l'armée, ok, alors ils ont sur qui compter. Mais on doit rester en amour, on doit rester en paix et respecter la vie de l'autre. Maintenant, comme le Rav Fizon m'a dit, c'est un débat de Torah, il donne son avis, j'entends tout à fait, je peux donner mon avis aussi de Torah, et je prouve maintenant, voilà, d'après les Rishonim, qu'on a l'obligation sacro-sainte d'écouter les grands de la Torah. Tous nos grands de la Torah ont dit ça, tous! Je parle du top, d'accord? Et ça depuis 70 ans. Et dans des cas de gravité d'urgence bien plus graves qu'aujourd'hui, après la guerre de Kippour, 3000 morts. Ils n'ont jamais dit qu'on sort les barreaux des Yeshivot. Avant la guerre des six jours, l'État a ordonné de creuser 5000 tombes à Houlon. Tout le monde avait peur. Ils n'ont jamais dit qu'on fait sortir les barreaux des Yeshivot pour aller se protéger. Non! Donc vu qu'on a une totalité au niveau du nombre, et au niveau de la pérennité de ce psaque-là, de cet halakha, depuis 70 ans, donc les grands de la Torah orthodoxe disent que pour la sauvegarde du peuple d'Israël, il est absolument obligatoire que les barreaux yeshivot continuent à étudier. En fait, il faut comprendre que l'armée juive est différente des armées des non-juifs. Les armées non-juifs, il y a plusieurs armes, l'aviation, la marine, les canons, etc. Chez nous, il y a tout ça, mais aussi une unité qui est le mérite spirituel. On fait partie de la même armée. Alors il y a les soldats qui sont de la yeshiva, et Baruch HaShem, les soldats qui vont sur le front, qui vraiment, on leur doit toute notre vénération pour les sacrifices qu'ils font, et tous les miskélim, les blessés, et les morts, sans parler de tous les morts et leurs familles, que nous vénérons vraiment, et que nous prions à Dieu que très bientôt la guerre cesse, et que tous vont ressusciter Baruch HaShem. C'est marqué que dans l'Olam Haba, tout celui qui a été tué parce qu'il est juif, c'est le degré le plus haut qu'il puisse y avoir. Ils vont très bientôt ressusciter Bezrat Hashem. En tout cas, on leur doit toute notre vénération. Eux et leur famille. Voilà, je pense que c'est bon. Je fasse un petit résumé. Donc, Allah a statué, non, parce que les conditions aujourd'hui ne sont pas les mêmes comme à l'époque où on parlait de Mechamet Mitzvah. Et ça, qui le dit? Les grands de Torah. Les grands Torah, vu que ce sont des grands Torah, ils connaissent bien ces lois-là. Beaucoup mieux que Rav Fizon et moi-même, d'accord? Donc, on doit leur faire confiance. Deuxièmement, cet Allah ne concerne pas que le Sanhedrin. Et même s'ils se trompent, il faut les écouter. Et personne n'a prouvé qu'ils se trompent, parce que tous sont d'accord pour le moment, dans le monde orthodoxe en tout cas, ces grands de Torah. Qui sont les grands? Eh bien, on demande à tous les Talmid Chachamim les plus grands, qui sont les plus grands parmi eux? Et on peut un peu quantifier en voyant leurs connaissances qui sont absolument inhumaines. que les jeunes gens de 18 à 21 ans sortent à l'armée, puis après étudient avant et après, donc il y aura le fil de Torah, c'est tout à fait insuffisant parce qu'on va casser le fer de lance du monde de la Torah. Les datiloumi sont orthodoxes. Oui, bien sûr, ils sont orthodoxes, que je parlais de l'appellation journalistique, et que la source, comme quoi, dans nos conditions aujourd'hui, où il y a tellement peu de gens qui étudient la Torah, il ne faut pas qu'ils sortent pour sortir, pour aller à l'armée, même si c'est Melechet Mitzvah, qui le dit? Ben, les grands de Torah. Donc voilà, c'est une réponse toraïque, pleine d'amour et de respect pour nos frères du monde d'Atiloumi. Machar, il arrive, aimons-nous, étudions la Torah, ceux qui doivent aller à l'armée, qui doivent aller à l'armée, qui les bénissent et les aident. Très bientôt, on va vivre la Géoula, Berachamim, mais avec beaucoup d'amour et de paix.